Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Par ici les sorties ». J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux personnes qui s'occupent de l'instrumentarium de Chartres, une entreprise un peu folle. Alors je vais demander au président de l'association André Bonjour de nous préciser ce qu'est l'instrumentarium de Chartres.
Alors l'instrumentarium de Chartres, c'est un ensemble d'instruments restitués en partant des représentations qu'il y a dans la cathédrale de Chartres, qui est la cathédrale qui en a le plus au monde, c'est-à-dire 312.
On parle des instruments de musique.
Des instruments de musique, oui. 312 représentations d'instruments de musique dans la cathédrale de Chartres. Et l'association en a restitué presque une quarantaine aujourd'hui, et constitue donc un ensemble d'instruments qui s'appelle l'instrumentarium de Chartres. Et pour jouer ces instruments, nous avons créé un ensemble de musiciens qui s'appelle les musiciens de l'instrumentarium de Chartres. Voilà, c'est ça l'instrumentarium de Chartres. Alors avec après, des activités bien sûr, de concerts, de stages, de présentations aux élèves. Les instruments sont eux-mêmes exposés au musée.
Car alors, excuse-moi, au musée des Beaux-Arts.
Oui.
Dans l'entrée, en sous-sol, quand on rentre.
Exactement. Et on
pour que les gens sachent, parce que...
Et on n'est même pas obligé de payer l'entrée du musée pour aller voir les instruments. C'était une convention dès le départ. Je voudrais dire tout de suite, parce que sinon, après, dans la discussion, on oublie, c'est la ville de Chartres qui finance tout le projet depuis le début.
Alors, je rappelle qu'il s'agit d'instruments restitués à l'identique, d'après des sculptures, d'après des vitraux, des sculptures qui sont soit à l'intérieur de la cathédrale, soit à l'extérieur, notamment, je pense, au niveau du portail sud, où il y a une très belle collection de rois jouant d'un instrument de musique. Et donc, ces instruments, il fallait les restituer, les reconstruire, et en même temps, les faire jouer. C'est ça qui est important.
Voilà, c'est ça. C'est que, en gros, quand j'ai fait ce travail pédagogique au départ avec les élèves, on s'est dit, les statues, c'est beau, c'est très bien, mais si on fabriquait ces instruments pour les entendre, ce serait mieux. Et c'est là qu'on a commencé ce travail de restitution, en faisant appel donc à des luthiers spécialisés, parce qu'il faut bien connaître la lutherie, mais il faut aussi connaître l'archéomusicologie, c'est-à-dire essayer de savoir comment ça se faisait au Moyen-Âge. Et puis après, donc ça c'est le savoir-faire des luthiers, et puis après faire appel au savoir-faire des musiciens, qui doivent être aussi des musiciens spécialisés, enfin Xavier en parlera mieux que moi, pour justement faire vivre ça. Et donc l'objet, c'est de faire découvrir aux personnes, qu'ils soient des élèves, des petits, des grands, ou peu importe, ce qu'était la musique, ou j'aime mieux dire aujourd'hui, les musiques du Moyen-Âge.
Oui, quoique le Moyen-Âge, bon, si on considère le Moyen-Âge, fait 10 siècles à peu près, vous dépassez un peu le Moyen-Âge quand même. Vous arrivez pratiquement jusqu'à la Renaissance.
Oui, alors tout simplement parce que la cathédrale de Chartres est bien sûr connue comme une des cathédrales gothiques les plus emblématiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un chœur, un tour de chœur, et qui lui est du XVIe.
Le début est du XVIe, la fin est du XIXe.
oui, mais ce que je veux dire, c'est que les petites statues, là où il y a des instruments de musique, c'est uniquement du XVIe.
Donc, en réalité, votre ère de prospection va jusqu'au début du XVIe siècle, on va dire.
Oui, jusqu'au XVIe siècle, parce que, bon, on ne va pas donner tous les chiffres, mais sur les 312 représentations d'instruments qu'il y a dans la cathédrale, il y en a tout de même 168 sur le tour du chœur.
Hein? D'accord. Donc... Et alors, actuellement, vous avez 40 instruments qui ont été restitués. Sur 168, il vous en reste pas mal à faire encore. Vous avez beaucoup de boulot.
Non. Alors, nous ne sommes pas une association de collectionneurs.
D'accord.
Donc, nous restituons les instruments qui nous paraissent être en accord avec et les luthiers et les musiciens, des instruments qui représentent bien, par rapport à ce qu'il y a dans la cathédrale, le Moyen-Âge et la Renaissance. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter sans doute à une quarantaine. Il n'y a pas besoin de multiplier.
Donc, en clair, vous êtes un peu des archéologues, vous ne travaillez pas avec des petites cuillères, vous travaillez avec des sculptures, des vitraux et des luthiers. Mais tous ces instruments qui sont très intéressants et Pour certains, ce sont des découvertes, je pense, le Chalmy, les vielles, etc.
Oui, le psaltérion. Oui, comme je dis toujours, ce n'est pas des instruments du top 50, mais c'est des instruments qui étaient très, très vivants au Moyen-Âge. Certains instruments sont encore vivants dans des traditions. Si, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai eu la possibilité d'aller en Syrie et en Irak. Vous êtes accueillis par des gens qui jouent du psaltérion. C'est un instrument qui est resté dans leur culture, alors que cet instrument a disparu de notre culture. Les vielles ont disparu de notre culture, d'aujourd'hui j'entends, et elles continuent d'exister dans d'autres pays.
Alors, tout à l'heure, tu faisais allusion à vos autres activités en lien avec cette entreprise un peu folle de l'instrumentarium de Chartres. Et justement, les 12 et 13 mars prochains, de 10h à 18h, pendant 2 jours donc, à la chapelle Saint-Julien, qui se trouve rue Saint-Julien à Chartres, il y a un stage d'interprétation chantée, parce que toutes ces partitions, toute cette musique de l'époque ou des instruments que vous restituez, elle était aussi chantée.
Oui.
Donc vous n'avez pas reconstitué les voix de l'époque, mais je vais me tourner vers Xavier Terraza, qui est le directeur artistique de l'ensemble musical de l'instrumentarium de Chartres, je ne me trompe pas ?
Oui, tout à fait,
bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu de ce stage de 2 jours. Alors, je rappellerai simplement que vous avez fait un autre stage peu avant, au mois de mars,
au mois de janvier,
sur la lecture des manuscrits de l'époque, si ma mémoire est bonne.
Voilà, des premières notations du 9e, et on s'est arrêté jusqu'au à la moitié du 13e siècle, et nous ferons la deuxième moitié du 13e siècle jusqu'au 15e, ça sera l'an prochain.
Voilà. D'accord, ça vous laisse le temps de souffler entre les deux.
Ça leur laisse surtout le temps d'avoir un peu moins mal au crâne. Voilà.
Et alors là, nous allons aborder donc le thème de ce prochain stage, qui dure 2 jours, je rappelle. Donc les 12 et 13 mars à la chapelle Saint-Julien. Et là, c'est pour l'interprétation chantée des musiques de cette époque, c'est ça ?
Voilà, exactement. Donc là, on a fait appel. Alors, il faut juste préciser que ça s'inscrit dans l'une des diverses activités de l'instrumentarium de Chartres, qui est donc les ateliers de l'instrumentarium de Chartres. Tous les 15 jours, on se retrouve pendant 2 heures, et il y a donc 25 participants à peu près cette année, qui se retrouvent pour constituer le chœur médiéval de l'instrumentarium de Chartres. Donc ce sont des gens justement qui découvrent et qui chantent et qui interprètent donc ces pièces du Moyen-Âge. Cette année, nous chantons le 13e siècle. Ça, c'est le jeudi, c'est de 18h à 20h. Et de 20h à 22h, là, nous avons c'est plus précisément destiné aux instrumentistes et aux solistes. Nous avons donc un autre groupe qui vient travailler donc ces pièces. Et c'est à l'origine pour eux qu'on a pensé, évidemment, c'est ouvert à tout public, hein, là, lors du stage que vous évoquiez sur les notations, il y a des gens qui sont venus de Belgique, de Paris, etc. Nous avons pensé qu'il était évidemment intéressant d'ouvrir à tous ces gens qui s'intéressent grâce à ces initiatives ou qui découvrent en tout cas les musiques du Moyen-Âge, de leur offrir d'autres perspectives. Donc là, c'est Hélène Descarpigny, c'est une chanteuse qui est très connue dans le milieu de la musique médiévale, hein, qui joue dans des ensembles assez réputée comme la Francesca, Discantus, et qui est une excellente technicienne de la voix, donc qui va venir faire découvrir la voix, qui va venir aussi aider chaque chanteur pour avoir un regard nouveau, lui proposer peut-être des techniques nouvelles, et évidemment tous ensemble donc s'intéresser à l'interprétation vocale des musiques du Moyen-Âge.
Thank you.
Une composition du Pierre de Dreux, du comte Pierre de Dreux, dont un vitrail présente le portrait dans la cathédrale de Chartres. Et cet air était chanté par Xavier Terrazza, avec qui je reviens et qui, je le répète, est le directeur artistique de l'ensemble instrumental et vocal Instrumentarium de Chartres. Alors, rebonjour. Parmi les musiques qui vont être abordés au cours de ces deux journées de stage, d'initiation des 12 et 13 mars. C'est des musiques qui datent de quelle époque à peu près ? Pouvez-vous donner une marge ?
Alors, lorsqu'on parle de musique médiévale, de toute manière, les limites sont vite fixées, puisque les premières sources de notation dont on dispose datent du 9e siècle, mais c'est le chant grégorien, vous savez, le plein chant. Et ensuite, les chansons polyphoniques, et donc c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. En fait, on commence à avoir vraiment des sources à partir du XIIe siècle. Voilà. Donc en fait, le répertoire médiéval occidental dont on parle, en général, se situe entre le XIIe et le XVe siècle. Donc là, on va travailler plutôt sur entre le XIIe et XIIIe siècle.
Enfin, ça va du XIIe au XVe siècle. Et vous dites répertoire occidental.
Oui, c'est important, bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire que... Mais par exemple, prenons l'Espagne.
Oui.
Si vous prenez l'Espagne, à l'époque, vous pouvez avoir des influences arabisantes ou arabes, carrément.
Tout à fait, bien sûr.
Tout à fait. Donc c'est quand même occidental sans être totalement occidental, coupé des autres sources de musique de l'époque.
Oui, tout à fait, mais dans la notation, si vous voulez, qui nous est parvenue, dans les manuscrits, eh bien, on a les sources chrétiennes, en fait. Maintenant, on connaît des répertoires, effectivement. Par exemple, les Moudjedars ou ce type de répertoires, qui sont des répertoires, effectivement, issus de l'implantation des Arabes en Espagne pendant presque 8 siècles.
Oui, donc, parce que ce que je trouve passionnant, ce à quoi faisait involontairement allusion André Bonjour tout à l'heure, c'est-à-dire que ces instruments-là et ce genre de musique s'est maintenu aussi dans des régions qui échappent à l'Europe occidentale, disons en Arabie ou au Liban ou autre. C'est ça qui me paraît intéressant, parce que la musique devient un langage qui ignore complètement les frontières.
Qui non seulement les ignorent, mais en plus ces instruments nous sont pour certains, en tout cas, nous sont parvenus ou en tout cas nous ont été transmis, puisque certains instruments existent dans l'Antiquité et on les oublie tout simplement dans les premières périodes de notre Moyen-Âge, et ils sont réintroduits, d'après ce que pensent les historiens de la musique, sont réintroduits justement dans nos contrées. C'est l'exemple, par exemple, à travers l'Espagne, effectivement, du luth. Le luth, donc la guitare, etc., ces instruments à manche, nous reviennent, on va dire, puisqu'on sait pertinemment que ça existait avant, mais nous reviennent par les sarrasins. Le tambour, à la fin du XVe siècle, le gros tambour, on le voit toujours représenté aux limites de l'Europe, mais on ne le voit pas représenté dans l'Europe. Et au XVe siècle, on va le voir réapparaître dans la musique militaire, par exemple. Mais ça, les Sarrasins, donc les Arabes, l'ont utilisé depuis des siècles.
Alors, venons-en maintenant à la voix. Il y a une chose qui m'étonne, enfin, comme on dit maintenant, qui m'interpelle. Comment arrivez-vous à retrouver la façon dont, à l'époque, on interprétait les chants religieux ou profanes? Comment, ce travail d'archéologie humaine, comment s'effectue-t-il?
Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que la grande utilité, je reviens sur l'instrumentarium de Chartres, la grande utilité de l'instrumentarium de Chartres, il faut le repréciser, c'est que pourquoi ces reconstitutions sont-elles si précieuses? C'est parce qu'on n'a aucun instrument qui nous soit parvenu depuis le Moyen-Âge. Dans les musées du monde entier, les collections privées, etc., on n'a quasiment pas d'instruments. On a quelques-uns à la fin du XIVe, un peu de XVe, quelques traces archéologiques, mais au bout du compte, on a quasiment rien. Donc reconstituer ces instruments, évidemment, c'est précieux. Pour la voix, on a de la chance, puisque l'instrument, c'est toujours le même. On a peut-être un petit peu grandi, on a peut-être un petit peu plus de pollution, vous voyez, on a inventé le tabac depuis le XVIe siècle, enfin on l'a introduit.
On l'a introduit,
etc. Mais alors après, effectivement, c'est quelle vitesse, quelle prononciation, il y a des débats presque passionnants sur la prononciation du latin, bien entendu.
Et moi je me pose aussi la question, par exemple, un chanteur ou une chanteuse, la façon de poser sa voix, la façon de respirer, etc., tout ça, ce sont des choses qu'il faut retrouver.
Oui, alors justement, la chose dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas. Donc à partir de là, si vous voulez, vous allez entendre, il y a beaucoup de disques, de plus en plus, et on s'en réjouit, de musique médiévale, mais la même pièce sur 5-6 ensembles différents sera interprétée de façon absolument différente. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup, dans le milieu de la musique médiévale, on a beaucoup d'interprétations, on va dire, classiques, puisque ce sont des chanteurs qui sont formés pour chanter du baroque,
plutôt,
etc.
Que classique, on va dire confirmé.
Non, je dis classique, parce que c'est une vraie technique, c'est une vraie esthétique, c'est une vraie demande aussi dans un cadre précis où un concert doit ressembler à quelque chose d'un peu sérieux, donc peut-être un petit peu classique. Mais on puise en fait beaucoup, vous savez, notamment pour les répertoires en langue dite vernaculaire, vous savez, le vieux français, vieil anglais, etc., l'occitan, on puise dans les musiques, là encore une fois, comme le disait André, on va puiser dans les musiques traditionnelles ou dites traditionnelles.
D'accord, parce que, par exemple, je suppose que parmi les stagiaires qui vont assister pendant ces deux journées, il y a des gens qui sont, disons, choristes,
oui,
traditionnels, qui font partie d'une chorale à Chartres ou ailleurs, bon, peu importe.
Bah, du chœur médiéval, notamment, oui.
Oui. Non, mais je veux dire, il peut y avoir des gens qui ont déjà une formation de choriste, qui ont l'habitude de chanter, et il va falloir qu'ils s'adaptent à une nouvelle technique ou pas?
Non, la technique, je pense pas. C'est plutôt une esthétique. C'est surtout un résultat. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, donc, quand on se voit tous les jeudis, donc aux ateliers de l'instrumentarium de Chartres, au chœur médiéval. C'est surtout de savoir quel résultat on veut obtenir. Voilà. Donc, il faut savoir quels sont les fondements de la musique. Donc, on parle de modalité, on parle de consonance parfaite, etc. À partir de là, chacun vient avec ses outils. Il faut savoir que ce chœur, évidemment, est ouvert à tous. Donc on a des gens qui sont confirmés, comme vous le disiez, qui ont une très grande pratique. Il y en a d'autres qui débutent. Pour eux, c'est une découverte. Et bien avec tout ça, on arrive à, effectivement, à faire de la musique. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est une musique qui est basée beaucoup plus, on va dire, sur la matière, sur la rencontre, sur la polyphonie, la consonance, j'ai déjà évoqué. Peut-être que sur une construction comme on peut l'avoir, par exemple, sur de la musique baroque, enfin un peu plus tardive, vous voyez, qui a d'autres qualités, bien sûr. Mais donc voilà, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va chercher. Après, chaque interprète, donc là, je pense notamment à Hélène Descarpini, qui va venir enseigner, et bien va apporter ce qu'elle est, ça fait plus de 20 ans qu'elle chante, donc ce qu'elle...
Sa vision personnelle.
Voilà, sa vision, et surtout, elle arrive, et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir, Elle arrive avec une boîte à outils et chacun, selon qui il est, vous voyez, va bricoler sa propre interprétation. Et ça, alors je précise juste quand même que malheureusement, le stage est complet. Voilà, je le dis si jamais il y avait...
Non, pas malheureusement, heureusement, je trouve que c'est très bien, au contraire.
Oui, mais malheureusement contre... pour tous vos auditeurs.
Mais par contre, une chose importante pour les gens que vos activités intéresseraient, on peut donner votre site. Le site, donc, c'est Instrumentarium de Chartres, .fr. Alors, Instrumentarium, quand même, je précise, à la fin, ça s'écrit R-I-U-M. Je rappelle que mes invités aujourd'hui sont André Bonjour, président de l'association d'instrumentarium de Chartres, et Xavier Terraza, qui est directeur artistique de l'ensemble musical et instrumental de l'instrumentarium de Chartres. Éventuellement, si vous voulez prendre contact avec eux par téléphone, c'est le 02 37 36 84 05. Alors, Xavier, je reviens avec vous là. Dans cette musique médiévale, on va dire, il y a de la musique religieuse.
Oui, bien sûr. C'est la... Donc, ce sont les.
Il y a aussi de la musique, on va dire, profane.
Absolument.
Alors, parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est une musique de troubadour. Donc, vous avez les troubadours, trouvères peut-être, je ne sais pas. Enfin, il doit y avoir le nord, le sud de la France. Enfin, bon.
Exactement. Là, c'est une source troubadour. Mais alors, justement, c'est une très belle illustration, justement, de ce qu'on appelle la porosité qu'il y a entre les répertoires. Le répertoire liturgique, religieux et le répertoire profane, en sachant qu'on est dans un monde fini, hein, dans ce Moyen-Âge occidental, on est dans un monde chrétien, et que tous ceux qui apprennent la musique l'apprennent donc auprès des moines. Hein. Et si vous voulez, par exemple, cette pièce, elle existe dans ce qu'on appelle le Magnus Liber Organi, le grand livre des organums de l'école de notre... École de Notre-Dame, on est à la fin du XIIe siècle, c'est un recueil de chants pour la messe, mais de chants polyphoniques. Et on retrouve exactement la même pièce, mais en polyphonie, que l'on retrouve dans cette danse de troubadour. Voilà, c'est pour vous dire que ce qu'on appelle les timbres, donc les mélodies, sont prises, reprises, etc., et que ce sont les mêmes qui composent à la fois pour la messe et qui composent des chansons profanes. Voilà. On va voir une émancipation petit à petit du musicien qui va commencer à vraiment faire de la musique pour lui-même et pour elle-même et pour le divertissement en l'assumant à partir du XIVe siècle. Donc c'est assez tardif.
D'accord. Alors, on va être un peu chauvin. On peut ? Oui, on peut. Est-ce que vous allez étudier une partition de Fulbert de Chartres, par exemple ?
Plusieurs, oui. Plusieurs.
Parce que quand même, Fulbert de Chartres, si je ne me trompe, a écrit pas mal de partitions.
Alors, les partitions, je ne sais pas, mais il a composé, dit-on, on lui attribue en tout cas de la musique, et en tout cas, il est souvent cité, et ses chansons, depuis le XIe siècle, donc on les retrouve dans de nombreux manuscrits, effectivement.
Et est-ce que vous allez aborder des manuscrits de Fulbert de Chartres, peut-être, non ?
Ah oui, bien sûr, évidemment, dans le répertoire de l'instrumentarium de Chartres, ça fait partie du cahier des charges. non, mais c'est tout à fait normal. Pour nous, c'est un intérêt, c'est d'être sur la cathédrale, d'être sur la ville, sur la région, et puis, évidemment, de se préoccuper des sources locales. Donc, l'école de Chartres, évidemment, c'est très important. Fulbert de Chartres, c'est très important. Donc, on a la chance d'avoir... de la musique, donc on en interprète évidemment, à la fois dans les disques, à la fois lors des concerts, etc.
Alors il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure, sur laquelle je voudrais revenir, si vous êtes d'accord, c'est qu'on dit souvent la musique médiévale, c'est réservé pour les initiés, pour les connaisseurs, c'est la musique qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Que répondriez-vous à ça ?
Eh bien, on fait de la musique comme on est, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en font quelque chose d'éminemment sérieux, d'éminemment respectable, et puis il y en a d'autres qui la vivent. Alors, on peut la vivre en étant sérieux et respectable, hein. c'est pas le problème, mais c'est pour dire que déjà, il y a beaucoup de musique au Moyen-Âge. Il y a des... j'en profite pour dire que la veille du stage, le 11 mars, donc toujours au Théâtre du Seuil, là, à la Chapelle Saint-Julien, il y aura un concert justement d'Hélène Descarpigny et moi-même en duo, où nous donnons un programme autour de l'humour dans les chansons du Moyen-Âge. Justement, c'est à 20h30, il n'y a que 49 places. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on a fait cette recherche pour ce programme, qui est forcément assez drôle, on s'aperçoit que depuis donc ce qu'on appelle les Yoka Monachorum, c'est-à-dire les blagues de moines, en fait, on se marre pas mal tout le long du Moyen-Âge. Donc évidemment, il y a la partie sérieuse, il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps aussi pour pas mal rigoler, il y a aussi de la danse, il y a ce qu'on vient d'entendre, c'est une danse. Donc évidemment, je ne vois pas en quoi cela serait sérieux. Voilà.
En clair, on peut dire aux gens, n'ayez pas peur, allez-y, essayez. Même si au départ... vous craignez de vous ennuyer, en réalité, vous allez découvrir tout un univers qui ne demande qu'à être découvert.
Oui, tout à fait. Là, vous savez, c'est au Moyen-Âge qu'on invente ces formes avec les refrains, hein, fin du XIIe siècle, de ce qu'on en connaît dans les sources. La chanson n'a pas changé, en fait. Hein, depuis, on est vraiment dans le même monde et ça n'a pas changé depuis plus de 8 siècles. Donc voilà, donc... les instruments ont un peu changé, mais ça reste toujours de la musique très vivante, en tout cas. Oui, ils peuvent venir.
Donc c'est de la musique de notre époque. André, bonjour. Xavier Terraza, je vous remercie beaucoup. Et je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site instrumentariumdechartres.fr. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.